Pour commencer, bonjour et bienvenue à tous et bonjour Jérémy Bouquin, bienvenue sur Radioactive.
Merci, bonjour.
Bonjour à Nathan aussi à la technique.
Bonjour.
Printemps de Barge. Alors on est un peu en décalage parce que le printemps vient de se finir, mais il s'agit bien de ça, du printemps de Bourges.
Il s'agit du printemps de Bourges, ouais.
Et c'est un livre, un polar, je pense qu'on peut le dire, sorti aux éditions du Pavillon Noir, qui est en plus un éditeur de la région, d'Orléans. Et c'est un polar qui a pour cadre, en fait, le printemps de Bourges. Voilà.
Ouais, le printemps de Bourges. L'idée, c'était de faire un polar un peu rock'n'roll et... d'imaginer un road movie berrichon, parce que ça se passe quand même dans le Berry, donc avec des personnages qui se trouvent être pourchassés par d'autres personnages qui sont beaucoup plus méchants que les premiers, et que ça se passe en plein milieu d'un moment quand même un petit peu estival sur la campagne berrichonne, ça veut dire le printemps de Bourges, parce qu'il se passe pas forcément grand chose tout au long de l'année en plein milieu du Berry.
Ah bon?
C'est pas forcément une terre de grande
activité.
Ouais. Donc à part le printemps de Bourges, voilà, ça semble beaucoup plus intéressant pour planter un décor, d'amener trois ou quatre problèmes en même temps, et pourquoi pas avec le printemps de Bourges derrière.
Alors on en parlait un peu en préparant cet agenda, c'est vrai que c'est un polar assez noir dans un lieu désagréable, avec des personnages désagréables, et
ça donne envie en fait.
Des méchants qui sont vraiment de plus en plus méchants, et puis évidemment ce qui est intéressant c'est que là-dedans il y a énormément de tendresse en fait. Et donc c'est un polar rock'n'roll rien que par les titres des chapitres, puisque on retrouve quand on est un rocker digne de ce nom, fréquenteur peut-être du printemps de Bourges, des titres de chansons tout au long des chapitres, des meilleurs rockers, l'homme pressé, Noir Désir, etc., etc. Alors on va parler un peu plus longuement de ce livre que moi j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu vraiment d'une traite et il a un souffle unique et il emmène du début jusqu'à la fin, assez étonnant en plus, avec des personnages qui surprennent. On a parlé de gens désagréables qui évidemment deviennent très attachants. Et donc pour planter un peu le décor, dans le Berry, une sale affaire de meurtre avec un gamin impliqué là-dedans, et puis un ancien des Brigades Rouges qui doit s'occuper de cacher en fait
de sécuriser,
ouais. Ça commence un peu comme ça, et donc on a des personnages. Donc Marco il est à Paris, mais le jeune il est dans le Berry, et donc il est parachuté. Marco Ranucci, cet ancien Italien des Brigades Rouges, parachuté dans le Berry.
Pour aller sauver ce gamin, donc grosso modo, dès le début, c'est un enfant qui se retrouve avec ses parents qui sont piégés et tués. Donc ça, c'est le premier chapitre, on dévoile rien de spécifique, mais voilà, et qui va
très
appeler un ami des parents qui s'appelle Pépé à la rescousse. Et ce Pépé, qui est un gauchiste très très engagé, déclenche un protocole qui lui est propre, ça veut dire la mise en sécurité d'une personne, protocole qu'on peut imaginer avoir été appliqué pendant les Brigades Rouges, où il a fallu à un moment ou un autre protéger des militants de l'extrême gauche qui venaient de l'Italie pour les ramener en France. Et donc là il applique à peu près la même stratégie, où il faut protéger à tout prix ce môme qui est pourchassé par des mercenaires, ce qu'on appelle maintenant des militaires privés, parce qu'on leur donne des vrais statuts. On ne sait pas pourquoi il est pourchassé, on ne sait pas dans quel cadre il est pourchassé, mais la seule personne qui peut, semble-t-il, protéger ce gamin est un vieux militant des Brigades Rouges, qu'on appelle le typographe.
Qui boit trop.
Qui est alcoolique, qui fait chaud, comme aujourd'hui, qui est en... Voilà, c'est pas un héros, on l'imagine mal comme un héros de guerre, etc. Non, c'est un type, un pauvre type qui va récupérer un pauvre gamin en plein milieu du Berry pour essayer de le mettre en sécurité et de le protéger.
Et c'est vrai que le polar fait penser, alors sans dévoiler le reste de l'histoire, parce que en fait il est dévoilé vraiment au fur et à mesure, c'est ça qui est hyper agréable, c'est que c'est pas du tout attendu, c'est que vraiment on comprend pas du tout dans quel mélasse on est, d'ailleurs les personnages non plus comprennent pas vraiment, et donc on découvre au final le fin mot de l'histoire. Et je disais tout à l'heure que oui c'était un personnage désagréable, etc. C'est aussi un polar... assez politique, mine de rien. Fait un peu penser à toute la vague des poulpes avec les Daninx et tout ça, qui se passe dans des, donc hors de la capitale pour une fois, et qui ont des décors comme ça en campagne, pas forcément habités, pas forcément magiques, loin de là, mais qui justement permettent de planter la vraie vie, on va dire.
Bah c'est le néopolar, c'est en fait il y a la création du roman policier qu'on connaît tous, hein, Sherlock Holmes, etc., etc., avec les romans tiroirs où à la fin il y a une énigme, etc., ouais. etc. Et puis dans les années 70, donc au moment où il y a aussi une vague politique en France, mais comme partout en Europe, on a créé un nouveau mouvement du polar qui s'appelle le néo-polar. On retrouve en effet des gens comme Manchette, Vautrin, qui ont après eu des enfants comme Dennings, le Poulpe, c'est Jean-Bernard Pouy qui est derrière, qui est aussi très proche du néo-polar. Tout à fait. L'idée, c'était de faire du polar social ou politique et derrière, de dénoncer un petit peu des choses qui ne peuvent pas ou qui ne fonctionnent pas ou qui représentent réellement la société. Ça veut dire qu'on part du postulat que les gens sont pas des super enquêteurs, sont pas des super flics, qui sont pas au-dessus de tout, que c'est des gens comme Monsieur Tout-le-Monde qui arrivent des choses un peu étranges ou un peu extraordinaires et derrière, on met en filigrane des vraies questions sur la pauvreté, le militantisme à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça peut être, quelle est la position de ces vieux gauchistes qui se sont battus pour des idéaux à l'époque de l'ultra-capitalisme dans lequel on est arrivé. Enfin, ils sont complètement broyés, ces personnages-là. Mmh. Ils se sont battus pour des idéaux ils ont perdu. Donc qu'est-ce qui reste? C'est assez marrant de les faire jouer avec des gamins, avec des hackers, et de les confronter à l'époque à laquelle on est maintenant, où tout s'achète et tout se vend et où il n'y a pas de problème.
Alors c'est vrai que le personnage de Marco Ranucci, qui est le personnage principal, l'ado s'appelle Alex, c'est un clin d'œil à César et Battisti, qui a dû quitter la France il y a un an ou deux parce qu'il était poursuivi à nouveau pour des affaires qui avaient été... Alors on peut peut-être expliquer vite fait, il avait fait partie des Brigades Rouges en Italie, il avait été condamné.
Jugé par contumace, donc
dans les
absent,
années 80.
Voilà, donc la Mitterrand a proposé aux anciens brigadistes le fait de les accueillir en France et de ne pas les renvoyer en Italie, même s'ils étaient jugés coupables, enfin de les protéger. Chose qui, quelque temps, a changé sous Sarkozy, où Battisti, du jour au lendemain, qui est un auteur de polar connu, qui était même, je crois, devenu prof, enfin bref, il était rangé des voitures, s'est retrouvé un jour...
rappelé par la justice,
Et prêt à être livré à la justice italienne pour purger sa peine de prison.
Qui était assez lourde, hein. C'était 20 ans, je crois.
C'était perpète. Il avait pris perpète. Il était accusé d'assassinat. Donc, lui a toujours revendiqué...
son innocence.
Entre autres. Bon, après, on ne peut pas vraiment savoir. Et donc, il s'est barré. S'est réfugié au Brésil. Alors, il y a eu toute une vague d'auteurs qui les ont aidés. Enfin, Fred Vargas, elle a fait un polar là-dessus. Enfin, il y a eu tout un tas d'articles expliquant quand même qu'il y avait un problème. En plus, les années de plomb en Italie, elles étaient quand même assez spécifiques, quoi. Et
c'était le point de départ du livre, ça, cette affaire Battisti, pour toi.
C'est le fait que, alors, le point de départ, c'était ces mouvements gauchistes qui étaient capables de faire disparaître des gens et de leur louer protection. Alors ça me paraissait intéressant, mais comme on le retrouve dans d'autres milieux, les milieux corses le font aussi, le banditisme le fait aussi,
c'est
etc.
C'est une histoire que t'as étudiée, ça, ou c'est quelque chose qui se sait
Non, à force de lire de la presse là-dessus, c'est quand même assez étrange de se dire du jour au lendemain. Il y a une réplique dans le film Hit qui est assez marrant, si vous n'êtes pas capable de disparaître en 30 secondes, vous pouvez pas faire ce boulot-là. Enfin, là, c'est un peu la même situation, ça veut dire que quand... on est à la marge de la société, qu'on soit dans le militantisme, dans le banditisme, etc. Si on n'est pas capable de disparaître le plus vite possible, on ne peut pas faire ce métier-là. Et on peut imaginer que derrière, il y a des procédures, des protocoles, des gens qui aident à faire des faux papiers, qui aident à organiser la cavale de tous ces gens, tout simplement par sympathie militante, ou tout simplement parce que il y a nécessité de protéger... de protéger tous ces gens, et j'ai brodé, et voilà.
Il y a un personnage, donc le personnage de Pépé, qui est donc le marionnettiste, on peut dire, hein, parce qu'il est vraiment derrière tout ça, puis en plus, il manipule bien son monde et la technologie. Ouais. Alors en fait, toi, tu es coordinateur jeunesse, donc les ados, tu les connais un petit peu bien.
Oui, c'est mon métier.
On en a un typique dans le roman qui est assez amusant, vraiment un ado de maintenant qui est à la fois complètement, associable, connecté en permanence. et puis qui est en train de découvrir des émotions d'une manière assez violente en fait. Hein. Alors comment il s'est construit ce personnage-là? Pourquoi l'avoir choisi? C'est vrai que tu parlais tout à l'heure de confronter deux mondes, un monde ancien, un monde nouveau. C'est vachement intéressant comment il émerge lui dans l'histoire. C'est super violent. Hein. C'est la première scène. Il va mourir sa mère en fait.
Mmh. Ah bah ça résume bien l'ado. Bah grosso modo,
c'est à la hauteur de l'adolescence cette violence, c'est ça?
Ouais, je pense. Ça veut dire faut tuer les parents, faut tuer. Enfin, c'est la raison physique de ce que pourrait être un adolescent en devenir d'un adulte. Enfin, grosso modo, bon, sans faire de la psychiatrie à 10 balles, mais l'idée c'est c'était de le couper toutes ses racines, de le mettre dans un état de choc suffisamment prononcé pour que ça aille mal, et le confronter avec le pire ennemi du jeune, c'est le vieux. Donc voilà, enfin, on s'attend pas à avoir un gamin
donc,
de 14 ans.
C'est un petit peu la vengeance là, non?
Non, c'est pas de la vengeance, mais il y a rien qui rapproche un mec de 60 balais d'un gamin de 14 ans.
Sinon la nécessité.
Sinon la nécessité, et encore je suis même pas sûr que Marco le fasse par nécessité. Il le fait parce qu'il doit renvoyer l'ascenseur à Pépé, mais c'est tout. Il n'a pas d'accroche au début avec ce gamin, voire même tout ce qui peut l'irriter. Lui, n'ayant même pas d'enfant, n'ayant même pas construit de vie, il se retrouve avec un gamin qui pourrait être son petit-fils. Mmh. Donc il y a tout qui l'éloigne vraiment de tout ça, quoi. Et qui plus est, c'était inutile de décrire l'adolescent comme on voudrait qu'il soit. Donc c'est un ado avec des oreillettes à longueur de journée sur les oreilles qui cache ses sentiments même quand c'est après les pires chocs, qui parle pas, qui a pas envie de parler, qui a de toute façon pas envie d'être sympathique, qui a pas envie de jouer le jeu, qui a même pas envie de l'aider concrètement.
Même pas envie de céder lui-même.
Voilà, qu'un boulet. Et puis après, on peut penser que ce gamin, il est en phase de comprendre que le seul lien qu'il va peut-être avoir, c'est ses yeux. Donc voilà. Et oui, ça ressemble un petit peu à des gamins qu'on voit, des gamins qui viennent dans nos structures, qui veulent s'affranchir de leurs parents, qui n'y arrivent pas, qui veulent devenir adultes trop vite, mais qui n'y arrivent pas, et qui se retrouvent confrontés le matin à 8h à être des enfants, et à 8h02 à être des adultes, et à pas savoir dans quel pied ils vont devoir danser, qui sont mal à l'aise avec leur corps, mal à l'aise avec leurs émotions, mal à l'aise avec beaucoup de choses. Et c'était rigolo de jouer avec ce coup-là, pas le regard qu'on aurait attentif d'un adolescent, mais plutôt avec le regard d'un vieux qui en a vraiment ras-le-bol et qui avait pas envie d'avoir un môme devant lui, quoi.
Voilà. C'était marrant d'écrire ces scènes. Alors, il y a des scènes marrantes, hein, où ils essayent de communiquer. C'est quand même pas très probant, d'ailleurs, dans la voiture. Mmh. C'est pas facile.
Bah, ça marche pas, ouais.
C'est des expériences vécues, ça aussi?
Vécues, non. Après, des brins d'anecdotes, ouais, il y en a quelques-uns, mais l'idée, c'était vraiment pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait du rythme, de la dynamique, pour pas que ça soit enfonce dans le roman noir, fallait qu'il y ait de l'humour, fallait qu'il y ait des bouffées d'air frais. Et c'était marrant d'en jouer. C'était marrant aussi d'être en paradoxe avec le personnage qui souffre d'alcoolisme, qui a trop chaud, qui est mal. Enfin, les deux sont mal avec leur corps, les deux sont mal avec leur être. Donc, c'était assez marrant de les rapprocher. Ça veut dire qu'ils ont beau être éloignés de l'âge, ils sont pas éloignés
de
leur problématique, ouais. Donc voilà.
Alors, pour parler du Printemps de Bourges, donc auquel le titre fait référence, je le rappelle, c'est Printemps de Barges aux éditions Pavillon Noir. Donc on a une star qui s'appelle Vinyl Rondel. Donc elle a une histoire en fait, hein, je l'ai appris tout à l'heure. Et puis un journaliste qui s'appelle Rémi Martingon. Donc ça fait très berrichon comme consonance. Et ces deux personnages qui sont issus d'autres ouvrages en fait.
Ouais, c'est des clins d'œil. Je suis un grand fan de néo-polar, de littérature noire, et en fait, il y a eu peu de polars sur le Printemps de Bourges. De mémoire, il n'y en a eu qu'un, d'ailleurs. Ça s'appelle Vinyl Rondel ne fait pas le printemps. C'est chez Série Noire. C'est écrit par Hervé Prudon, qui pour moi est certainement l'un des meilleurs auteurs avec Pouy, entre autres, Marc Villard, etc. Et ce bouquin qui raconte l'histoire d'une chanteuse de rock qui s'appelle Vinyl Rondel, d'un critique de rock qui s'appelle Rémi Martingon, etc. Ça me semblait bien d'emprunter à d'autres ouvrages. Les curieux, ils iront chercher sur Internet, ils tomberont sur le bouquin, ils iront lire Prudon, et j'espère qu'ils ils adoreront autant que j'adore, quoi.
Alors, le regard sur le printemps de Bourges, il est pas tendre. Il est plutôt. C'est un festival qui ressort dans le livre d'une manière plutôt froide, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un hommage à la musique avec les titres des chapitres. Ça, c'est clair. Vous aimez la musique, je pense.
Ouais, tout à fait.
Mais par contre, le printemps de Bourges, ça a l'air d'être juste un embouteillage permanent, quoi.
Je pense que c'est difficile d'aimer la musique et d'aimer le printemps de Bourges en même temps, même si on peut y passer du bon temps, même si c'est l'occasion de voir des groupes. C'est déjà très cher. Enfin, faut être clair. Enfin, moi, je trouve ça très cher. Maintenant, l'accès à la culture à 20 euros le concert, je trouve ça... voilà. C'est... ouais, je l'ai décrit comme une guerre en plein milieu d'une ville, un état de siège permanent, avec du bruit, des affiches collées, mais... partout. Ouais.
Il y a une autre référence alors qui m'a fait penser, moi, notamment dans ces scènes en campagne avec des poursuites avec des gros bras qui ont l'air vraiment très méchants, c'est au roman du suédois Millennium, le romancier
Stieg Larsson.
Stieg Larsson, ouais. Merci. Donc il y a ça et il y a la technologie aussi. Il y a ces trucs de campagne, on est en pleine campagne au milieu de rien et puis là-dedans il y a de la grosse technologie. De fou et alors ça c'est marrant aussi, c'est encore jouer des contrastes, ça c'est très présent dans le roman.
Ah bah je suis passionné de technologie.
Ah voilà, c'est ça.
Non,
donc
c'est,
en fait tu connais tout ce dont tu parles dans le roman.
Ouais. Et encore c'est
vraiment vrai de vrai.
On peut faire pire même maintenant.
Ah.
On va pas le dévoiler.
Alors j'invite
mais
les lecteurs à
les
lire
pire.
Parce que c'est quand même déjà pas mal.
On peut faire pire parce que justement dans les suites que je suis en train d'écrire on des technologies qu'on applique à l'heure actuelle, qui sont pas forcément la Libye, entre autres Kadhafi. On faut savoir que la société Bull, c'était dans le Canard Enchaîné de cette semaine, a surveillé un pays en entier grâce à Internet. Et c'est la France, enfin c'est des sociétés françaises qui ont installé tout ça suite à un appel d'offres, hein, tout simple, et qui ont fliqué un pays en entier. Donc non, ça peut être bien pire.
Le domaine de la sécurité est en avance. Au niveau technologique, c'est assez
bah après, on est tous rattachés maintenant à des téléphones. C'est tellement simple. Tout passe par les mêmes tuyaux. Enfin, non, c'est beaucoup plus simple. C'est nous qui nous sommes piégés avec autant de technologies. Maintenant, on standardise, on organise. C'est tout simple.
C'est tout simple.
C'est paradoxal. Mais après, c'est pas... C'est une réalité qui résonne en permanence aux informations quand on les regarde. La base du néopolar, c'est que faut être au plus proche de la société décrite au moment, et on est dans une société qui est contradictoire. On a vite de liberté, mais on met en place des lois antiterroristes impressionnantes. On dit qu'on fait ce qu'on veut quand on veut, etc. Mais on est rattaché à des babioles technologiques permanentes. Enfin, on est esclave.
Ce qui est barge dans le livre, c'est vraiment ça. C'est toute cette technologie, cette société de sécurité, donc qui est montée pour surveiller tout le monde, qui arrive avec ces tueurs qui sont efficaces, qui peuvent faire disparaître eux aussi des gens assez facilement. Et ça, c'est alors c'est vrai que moi je suis un peu une lectrice de base. Hein. Ça c'est vraiment vrai, ça arrive de pouvoir faire ça, de des sociétés de sécurité comme ça aussi efficaces.
Il y en a qui existent déjà en Irak, qui interviennent. Je sais pas si vous avez entendu, mais François Hollande aujourd'hui a dit que ça serait les civils qui allaient protéger en Afghanistan. Ça s'appelle des sociétés. Blackwater sont des sociétés américaines et françaises. Enfin, on a des sociétés françaises de sécurité de militaires privés qui sont
de cet acabit-là.
Ouais. Qui protègent nos entreprises pétrolières.
Donc finalement, c'est que des militaires
etc.
privés.
Oui.
D'accord.
Mais ça existe. Alors, ils n'ont pas le droit d'exister, enfin, de travailler sur notre territoire. Nous, on a encore une souveraineté, donc on a encore des gendarmes, on a encore des policiers, etc. Mais on a des entreprises qui répondent à des appels d'offres et qui interviennent dans des pays pour sécuriser des sites comme Total, etc. En Irak, en Afghanistan, dans des pays en guerre. Et puis, sur le territoire national, on a bien des sociétés d'intelligence économique qui travaillent, enquêtent et sécurisent certaines de nos grosses entreprises. On n'a pas eu très très longtemps, on a entendu parler de détectives privés qui ont enquêté à IKEA avec l'aide de la police pour trouver et constituer des fichiers privés. Hein. Donc c'est possible. Mm-hmm. Et ces sociétés existent. Et il y en a une qui est bien connue, c'est Blackwater. Enfin, c'est la plus connue parce qu'il y a eu des documentaires aux États-Unis qui ont été
entreprises américaines.
Ouais, qui protègent les intérêts américains en Irak, entre autres les entreprises pétrolifères. Et on en a d'autres sur d'autres dans d'autres pays qui interviennent.
Avant de se quitter, il y a une suite donc.
Ouais, il y a une suite.
Alors, est-ce que c'est une suite ou est-ce que c'est autre chose, un autre roman?
C'est pas une suite, c'est un autre roman qui reprend un des personnages de la fin, un flic, qui s'appelle Philippe Grenier, et on retrouvera les personnages, on retrouvera Ranucci, on retrouvera Pépé, etc. Et l'idée c'était, ça va être de développer plusieurs romans, où par petites clouchettes à l'intérieur de chacun, il y aura une grande intrigue générale qu'on retrouvera, donc l'idée c'est d'en faire quatre.
Donc une série ou...
Non, c'est il y a une intrigue générale en fait là-dedans dans le printemps de Barge, j'ai un petit truc qui s'est glissé. Dans le deuxième, il y a d'autres éléments qui se glisseront et l'idée c'est d'en faire quatre et de les articuler tous autour de quatre personnages différents. Donc le prochain ça va être Grenier. Donc l'inspecteur des renseignements généraux de la fin du bouquin.
Il y a un titre déjà ?
Ouais, ça s'appellera Règlement de compte, toujours avec un jeu de mots, compte, c'est pas, ça sera compte comme des comptes, parce que ce coup-là, les ouvertures de chapitres se feront sur des comptes, c'est tout simple, c'est les trois petits cochons qui attaquent l'un des plus gros banquiers de la place d'Orléans.
D'accord, donc, ça se passe à Orléans.
Ouais, ça se passe à Orléans, je trouvais ça marrant, c'est en lien avec le personnage. Et voilà, il y en aura un troisième avec Rémi Martin-Gon et le dernier avec Arturo Massa. Donc voilà, d'accord. L'idée c'est de reprendre les personnages un peu forts et de les exploiter au maximum.
Alors pour finir, vraiment, on peut quand même dire un mot sur l'édition, parce que c'est quelque chose ça, d'éditer un roman. Alors il y a d'abord l'écriture, là on en a pas mal parlé, mais après il faut éditer. Comment ça s'est passé comme c'est un premier roman ?
Bah super, enfin je l'ai envoyé, bah comme tout le monde, hein, ça veut dire je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs, cet éditeur-là, dont Pavillon Noir.
Un éditeur orléanais.
Ouais, j'avais pas envie d'envoyer au gros, parce que déjà pour l'avoir fait sur un précédent, ils répondent pas, etc., etc. Et là l'idée c'était de tester, de voir. Il m'a répondu assez rapidement et non, c'est un vrai plaisir. Ça veut dire d'être accompagné, d'avoir quelqu'un, un interlocuteur qui n'hésite pas à dire quand ça va, quand ça va pas.
Il y a un échange.
C'est important d'avoir un éditeur parce que c'est quelqu'un qui va échanger. Alors c'est dur.
C'est le premier lecteur en fait.
Ouais. Alors il y a le premier lecteur, c'est le premier critique et puis sitôt qui sent pas un truc, vu que c'est une opération financière, il n'hésite pas à le dire non plus. Donc il y a eu un vrai accompagnement et c'est ça qui est agréable quoi.
Polar, Pavillon Noir, il est spécialisé en polar,
ouais, tout à fait.
Cet éditeur, d'accord. On peut le trouver où, le livre, sur Tours ?
En librairie, il est diffusé, enfin, est distribué, donc il est en librairie, et sinon même chez l'éditeur, ou en commandant, en librairie,
sur Internet,
etc., sur Internet, etc.
D'accord. Ok, merci Jérémy Bouquin d'avoir été avec nous. Printemps de Barge, chez Pavillon Noir.